Morée.
C'est une bonne idée.
Live. C'est une bonne idée.
En vacances.
Ça m'inspire.
Live.
Ça m'inspire.
Morée. Live.
Radio X.
Journée un peu plus nuageuse aujourd'hui. Bon, risque d'orage peut-être en après-midi, mais ça devrait se dissiper au courant de la journée. 27 degrés pour ce qui est de la circulation en ce moment. Grande région de Québec, rive nord, rive sud. Honnêtement, rien à signaler. Si vous voyez quoi que ce soit, ben informez-nous. Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'ils assurent et ça rassure. Changez, vous pourriez économiser sur votre assurance habitation.
Donald Charrette.
Qu'est-ce qui se passe en ville?
In the city with Donald.
Avec Donald Charrette.
Salut Donald.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Excuse-moi, je voyais le petit bug s'en venir. Là, puis, merci d'être là avec nous ce matin. Comment ça va?
Va très bien, vous autres?
Ça va très bien.
Yes.
Mardi nuageux. Et ben là, on apprend cette semaine qu'en plus de ça, durant l'été, on va devoir les gens de Chicoutimi, le Fjord ou le F-Jord, comme on l'a appelé ici dans Montréal Live en vacances, on va aller voter durant même début d'élection provinciale. C'est bizarre, ce timing-là, Donald.
Ben oui, on va avoir des élections le 31 août, si j'ai bien vu, là, dans ouais. trois comtés. Là. Un à Toronto, oui. un à Vancouver, puis l'autre à Chicoutimi. Là. Alors, c'est intéressant de voir, là, parce qu'il y en a deux sur trois qui sont assurés d'être libéral. Là, alors, c'est Chicoutimi qui vole la vedette. Là.
Ben, je voyais tantôt à Radio-Can, je regardais les chiffres qui démontraient, puis le Bloc québécois semblant légèrement en avance de 1 %.
Oui, c'est ça. Puis la dernière fois, ça avait été très serré. Hein. Ça avait été 33. Il y avait 2 points d'écart entre le premier et le troisième.
Oui.
Alors, Richard Martel était passé de justesse avec 300 voix. Là. Donc, c'était déjà très serré. Là, c'est de voir la réaction des gens de Chicoutimi, parce que dans le fond, Marc Carney s'est acheté un comté, dans le fond. Là,
totalement.
Il a acheté Richard Martel, l'a envoyé au Sénat, puis il a ouvert une partielle qui va coûter de l'argent quand même. Là. Alors, comment les gens là-bas vont réagir face à cette manœuvre? Là? C'est une manœuvre, là. Est-ce qu'ils vont aller se réfugier sur le bloc? Puis genre de voir aussi le Parti conservateur, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, les autres, ils ont toute une série de défaites. Là. Il commencerait le temps qu'ils scorent un peu. Là. Alors, ça va être fort intéressant à surveiller.
Il va falloir qu'ils changent quelque chose qui se passe au niveau du Parti conservateur du Canada, là, parce qu'il y a eu des transfuges. Richard Martel, pas un transfuge, mais quand même, c'est un coup dur, là.
Ben oui, puis je regarde ça, il a été élu il y a à peu près un an et demi.
Exact.
Ça fait pas si longtemps. Là. Le gars, il se présente, il se fait élire, puis à un moment donné, il décide que oh, ben, je deviens sénateur. T'sais, je trouve que c'est un peu une trahison de ses électeurs. Là. Tu signes un mandat de 4 ans, tu n'es pas là pour aller trouver un job au Sénat. T'sais. Alors, je trouve ça un peu grave. J'ai peur d'avoir la réaction des gens de Chicoutimi, mais ça se peut que le Bloc ait des chances. Et, mais par contre, tu vois aussi la popularité de Marc Carney. Il est tellement populaire que
ben,
est-ce qu'il va surmonter tous les obstacles possibles pour augmenter sa majorité à la Chambre des communes.
Je pense qu'on va faire travailler très, très fort la machine. Puis, tu sais, j'écoutais les analystes hier, différents panels, puis on se rend compte, OK, Mark Carney, c'est un vrai politicien, puis il y a de bonnes chances que ça soit favorable à lui de faire ça en plein été comme ça. Là.
Ah oui, tu sais, écoute, les élections en été, moi j'en ai déjà vécu, là, c'est pas idéal parce que les gens ont peut-être. Moi, j'ai déjà vécu une élection, là. C'était ainsi de l'année, j'étais en campagne électorale, là, en 1994 avec Daniel Johnson, là. Alors, faire une campagne électorale en été, là, c'est très pénible parce que les gens veulent pas te voir, tu sais. Puis tu les déranges sur leur camping, dans leur sortie, puis ils veulent t'oublier, puis là, t'es sur le terrain. Alors, tu sais, mais il veut faire ça vite parce qu'il veut se faire une majorité assez rapidement. Ouais. Alors, tu sais.
La solidifier, du moins, là,
ouais,
parce que.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on voit que Marc Carney aussi, c'est un stratège, là. Tu sais, c'est un stratège politique. C'est pas juste un banquier désincarné, là. Et il connaît, en tout cas, son parti connaît la game politique.
Ben, ils ont réussi à aller chercher, comme je l'ai dit, des transfuges de part et d'autre. L'histoire avec Richard Martel de l'envoyer au Sénat, c'était une stratégie très, très, très politique. Puis. J'allais dire malhonnête, mais c'est pas le mot que je cherchais, là, mais il reste que tout ça dans le but d'aller solidifier sa majorité.
Ben oui.
C'est ça l'objectif.
Et Daniel Gobeil qui ont placé là aussi,
oui,
comme
exact.
Candidat dans cet endroit-là. D'après moi, il va faire déplacer des gens, lui.
Oui, mais ce que j'ai vu, effectivement, là, c'est l'ancien président de la Fédération des producteurs de lait. Là, alors, c'est un gars impliqué, tu sais, alors je pense que c'est un bon candidat. Alors. Ça va être une lutte intéressante, mais disons que les libéraux ont bien manœuvré. Et ils ont bien des chances de prendre le compteur, à moins que le bloc performe très bien. Là, j'ai vu que c'est Caroline Dubé, je pense.
Oui, Caroline Dubé, qui est une avocate, elle, en tout cas, du moins, directrice du bureau. Mario Simard, qui était député du bloc dans Jonquière. Je pense qu'elle est quand même assez connue là-bas. Là. Fait que ce sera intéressant de voir si Mark Carney peut déjouer le...
Oui, il est en train de placer ses pions pour l'automne, là, ouais. À la Chambre des communes, puis essayer de garantir sa majorité, là.
Oui, puis je pense que le fait que Donald Trump ait menacé avec de nouveaux tarifs, ça va l'aider. Beaucoup de producteurs aussi dans cette région-là, donc le fait d'avoir placé Daniel Gobain, moi, je pense que tout est là.
Non, mais c'est la gestion de l'offre. Pour le bloc,
c'est exactement
pour
ça.
Pour le bloc québécois, c'est de l'or en bord. C'est-à-dire, il va pouvoir faire la campagne sur la protection de la gestion de l'offre.
Ouais.
C'est qui est au cœur des discussions. T'sais. Alors, ça va être à suivre, ça va être fort intéressant. Encore, il y a encore de la politique intéressante.
Ah oui, absolument. En plein déclenchement de l'élection provinciale. Puis déjà, on le voit, ça brasse déjà, Donald, dans dans la province avec cette élection-là qui s'en vient. Là.
Ah oui. Puis évidemment, on garde un peu l'œil sur ce qui se passe au Québec, là, parce que quand même, là, on va être en élection bientôt. Là, je avais vu l'espèce de bilan que Mme Fréchette a fait. Là,
ben oui, les 100 jours.
Oui.
Ben oui. Ça a changé beaucoup de choses. Hein?
Il y en a eu des annonces. Hein? En tout cas, il y a eu beaucoup d'annonces. Et là, je pense que c'est les députés qui ont pris le relais. Là. Mais disons qu'il faut lui accorder qu'elle était extrêmement active. Elle a beaucoup dépensé aussi, là. Elle était extrêmement active. Il n'y a pas une journée qu'il n'y avait pas une annonce.
Mm.
Alors, tu sais, je pense qu'elle a réussi à occuper le terrain. Alors, on va voir si ça va lui profiter ou pas. Là.
As-tu vu une vidéo que Max nous a fait entendre, là, qu'elle parle de son...
Son anecdote, là?
Oui, c'est ça.
L'incendie de cheveux de permanente. Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé, ça, au niveau placement de produits? Parce que c'est ça que c'est, là, c'est une technique marketing. Qui est-ce que tu penses qu'elle va viser en publiant ça?
Bien, je pense que, comme vous dites, c'est de donner le côté humain. Tu sais, dire, moi, je trouve ça assez curieux, comme, tu sais, dans le fond, le permanent.
Ouais, le permanent.
Oh,
ouais,
le
plus,
permanent.
Oui.
Ouais, ça a l'air, c'est un vrai terme, mais personne n'a jamais dit ça.
Ben, moi, j'ai toujours entendu la permanente.
Ben oui.
Ouais. Quand j'étais jeune, tout le monde avait une permanente.
Mais, ben oui.
Honnêtement, c'est assez drôle, là. Mais tu sais, c'est quoi l'intérêt politique de sortir une anecdote, à part de vouloir l'humaniser, puis de regarder, là, comme vous dites, elle est comme tout le monde, c'est une fille du peuple, là. Et elle a vécu des choses comme vous autres.
Oui, oui.
La piscine hors terre, puis la fête. Mmh. Puis
elle fait pas juste se promener en limousine, elle.
Non, non, elle n'est pas déconnectée du monde, elle est proche du monde. Alors, tu sais, c'est vraiment une opération charme pour dire, regardez, là, c'est une fille du peuple.
Là. Les traumatisés de permanent, c'est la communauté. Il y en a ouais, une frange de la population, on l'a traumatisé de cette époque.
Hier, il disait, encore là, on analysait la vidéo de Christine Fréchette, on disait, c'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Puis la plupart des analystes disaient, oui, c'est bon, parce que là, de plus en plus, il faut humaniser nos politiciens, il faut créer un sentiment là, d'amitié, il faut les rapprocher, en fait, des citoyens.
C'est pas, ils veulent dire, c'est pas des êtres désincarnés, là, sont comme vous et moi, là, ils sont parlables, ils sont même sympathiques, là, parce que ça la rend sympathique. Là. Mais tu sais, c'est quand même une drôle d'opération. Il faut que quelqu'un ait imaginé ça et dit, qu'est-ce qu'on ferait bien là, pour donner un côté plus human. Là, alors, tout ça a été réfléchi. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Là, mais...
ben, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une série qui s'en vient. Là.
Inévitablement. Non, je pense qu'on va
est-ce que
série?
Les autres chefs politiques vont emboîter le pas? Est-ce qu'on va voir des milliards ou des duems ou... ou des Paul Saint-Pierre-Plamondon ont joué cette game-là.
Ben, Charles Millard l'a un peu fait, là, avec son... Je sais pas si t'as vu sa publicité, là, du Parti libéral avec « Je suis là ».
Oui, 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 oui.
Je suis là. Je suis là.
Ça aussi, c'était sympathique.
Oui, c'est bon, ça.
Mais ben, Marc, c'est sympathique, mais en même temps, il avoue qu'il est pas,
qu'il est pas là,
puis personne ne le voit.
C'est de l'autodérision, un peu, comme « Il est où, Charles? » Je sais pas, il doit courir, là. Il doit encore faire de quoi. Il doit être très, très, très occupé pour qu'on le voit pas.
Mais c'est ça, on va utiliser cette stratégie-là de vouloir être proche du monde. Mais Christine Fréchette, ça t'en démarre pas qu'elle a dépensé en tabarouette des millions, là, plus que l'enveloppe qu'on y avait laissée.
Bien, tout l'argent qui était budgété, l'an dernier budget a été dépensé parce qu'il y avait jusqu'au 17 là, pour étaler là, ce qui avait été autorisé dans le budget. Là. Là, dorénavant, ils peuvent plus dépenser vraiment parce que là, ils rentrent sur le compte électoral. Là, ce sont des nouveaux investissements qui n'ont pas été budgétés. Fait que là, ça commence. Là, ils vont faire attention. T'sais. Mais ceci dit, elle a tout vidé l'enveloppe qui était impossible de vider. Là,
ne plus.
Et je ne sais plus le 280 millions qui était prévu dans le budget. Là, on est dans des centaines de millions. Là. Si on additionnait tout ce qu'elle a annoncé, là, qui est annoncé, il y avait un texte passé, je pense que dans la presse, il disait qu'il y a eu 122 annonces, conférences de presse par Mme Fréchette et ses ministres. Là. 122.
122.
en espace de quasiment un mois et demi. Là, ah. Alors, c'est énorme. Là, c'est...
Puis Gérard avait laissé 250 millions, puis subséquent aussi pour les prochains, pour le prochain ou la prochaine première ministre. Puis je pense qu'il était rendu à 333 millions en annonce. Ouais. Fait que ça va être reporté où, ça, d'ailleurs?
Sa dette.
Ben oui, Max.
Ah. La dette, elle va finir par apprendre c'est quoi la dette nette, puis il va falloir qu'elle tienne son cahier à jour pour le savoir par cœur, parce qu'elle en rajoute, elle en rajoute, elle en rajoute sa pile.
Ça, on le sait, on connaît la cassette. Le prochain parti qui va arriver au pouvoir, si mettons c'est le Parti québécois, vont nous dire, ah ben là, ils nous ont laissé tellement de dettes qu'il y a beaucoup de promesses qu'on ne pourra pas faire. Mmh. On connaît la cassette.
Ouais, puis là, on n'est pas arrivé en campagne électorale. En plus. En campagne électorale, tu as des annonces, des dépenses, hein, si tu, ouais. des promesses qui coûtent de l'argent, là. Alors moi, j'espère que les partis vont être modérés là, dans leurs promesses, parce que là, déjà là, on a vidé l'enveloppe. Là. On n'a plus d'argent.
On n'a plus d'argent.
Alors, qu'on arrête de promettre n'importe quoi, là, tu sais. Qu'on arrête de promettre un médecin de famille, puis des places en garderie, puis tu sais, des infrastructures folles, tu sais. Qu'on fasse attention à un moment donné, là. Alors moi, j'aimerais ça qu'on ait une campagne très, très rigoureuse, très raisonnable. Mais j'en doute parce que les politiciens ont tendance à annoncer beaucoup de choses.
Mm-hmm. Oui, puis moi, ce matin, j'étais un peu dans un monde de licorne où je disais, ben là, j'espère que les médias vont faire une couverture de campagne sans fouiller dans les vidanges du monde, puis plus questionner les idées. Mais je pense que je vis dans un monde parallèle, Donald.
Oui, mais c'est sûr. Puis maintenant que les médias sociaux, là, tout est scruté, alors peu importe les partis politiques, je pense que tout le monde va aller fouiller là, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, écoute, je pense qu'on l'a vu dans la dernière campagne électorale. Là. Les écrits restent.
Oui, oui, c'est sûr.
Les écrits restent et tu dois vivre avec, là, tu sais.
Oui, et puis maintenant, tout le monde se fait fouiller ses réseaux sociaux, ça vient avec.
Oui.
Puis, tu sais, tu parlais des finances publiques puis de l'argent qui est dépensé par Christine Fréchette. Puis, un des choix qu'on va devoir faire en tant que société, puis j'en parlais hier, c'est toutes les le déficit d'infrastructures, entre autres. Je ne sais pas si tu as vu, là, qu'au Québec, on a plus de 30 milliards de déficit d'infrastructure, puis là, il y a des murs de soutellement à Lévis puis à Château-Richer qui sont en train de s'effriter, puis on n'aura pas d'argent pour ça, là.
Ben non, mais je pense même que le déficit d'infrastructure au Québec est autour de 53 milliards. Ouais, juste pour mettre à niveau, là, pas pour faire de nouvelles constructions.
Non,
mettre
c'est
à
ça.
Niveau, c'est 53 milliards. Puis c'est les ingénieurs qui le disaient, tu sais, alors on peut-tu commencer par investir là-dedans? Et c'est à grandeur du Québec, là. Ouais, on devrait arrêter de se lancer dans toutes sortes de projets... très onéreux. Puis je regardais, écoutez, oui. Je fais le lien parce que la semaine passée, le ministère des Finances a publié le rapport sur la situation financière du Québec. Il y a des choses intéressantes là-dedans, entre autres. Là. On voit que depuis un an, là, on a payé en impôts, là, ce qu'on appelle les revenus autonomes, on a payé quelque chose comme 950 millions de plus, nous, les contribuables.
OK, il a rentré 950 millions de plus.
Oui, bien à cause de sortes d'affaires, entre autres, parce que les salaires du secteur public ont augmenté, etc.
Ouais.
L'impôt des particuliers,
ouais.
L'impôt des entreprises, etc. Au total, ils sont allés chercher en un an 5 milliards de plus dans les poches des contribuables.
Ben, c'est épouvantable, c'est épouvantable.
Puis au point que maintenant, là, c'est que 46 % des revenus du gouvernement proviennent de l'impôt des particuliers. C'est beaucoup, là.
Ben, c'est
ouais,
énorme.
On se fait
énorme.
Ça a augmenté de 2 %. Il y avait un texte en presse aussi. Ça a augmenté de 2 % depuis un an. Là. Alors, tu sais, là, l'impôt des particuliers, tu vois que là, tu dis les gens ont de la misère à arriver. Oui, c'est parce que le public prend beaucoup de place. Là,
beaucoup trop. Puis vos salaires augmentent, mais vous n'avez pas plus dans vos poches. Vous l'envoyez à l'État.
On l'envoie. On fait
les gens ont une augmentation de salaire, mais il y a beaucoup là-dedans qui ont été imposés. Alors, il y a beaucoup du secteur public qui ont eu des augmentations de salaire, mais ils ont été imposés là-dessus.
Ben exact.
Alors, ils rentrent plus d'argent pour le gouvernement, mais est-ce qu'il t'en reste beaucoup plus dans tes poches?
Non.
Pas nécessairement. Là.
Puis, 46, c'est incroyable comme pourcentage. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui est pris en même la classe moyenne.
Ah oui, mais c'est,
si c'est pas l'essentiel.
Ben, c'est la classe moyenne, parce que déjà, au départ, je pense que 40 % de la population qui ne paye aucun impôt.
Même les retraités, les jeunes.
Tu sais, puis bon, les gens sur les sociales, puis bon, etc. Alors, on a 40 % qui payent ou qui ont des salaires trop bas pour payer de l'impôt. Là. Alors, ça, il y en a quand même beaucoup. Ça veut dire que le reste de la société assume entièrement ce poids-là. Mm.
Puis la croissance économique n'est pas super au Québec. On a créé pratiquement plus d'emplois étatiques que de nouveaux emplois, nouvelles entreprises. Ça, on ne s'aide pas.
Non, écoute, ce qui a grossi depuis 10 ans, depuis que la CAQ est là...
Fonction publique.
C'est la fonction publique, là. Puis une donnée que j'ai trouvée assez révélatrice, je pense qu'elle m'a un peu frappé. Ils ont fait un peu le portrait par ministère, là, un peu combien on a dépensé par mission, comme on appelle, là. Tu regardes en santé, en éducation, c'est genre 2, 3, 4 %, là, tu sais, ce qui est quand même raisonnable. Le secteur qui a le plus augmenté, qui est un peu même scandaleux, devinez c'est quoi? C'est transport et mobilité durable. 19 % d'augmentation.
L'argent va où?
Transport? Oui, c'est l'argent va où?
Ben, ça doit être dans les programmes d'infrastructure, j'imagine, là, où, tu sais, les gens REM, tramway, je sais pas trop, là, tu sais, alors, mais, tu sais, tu regardes le tableau, là, puis le seul qui se distingue vraiment, là, tu sais, c'est beaucoup plus que dans la santé, l'éducation ou même les infrastructures, là. Alors, tu te dis, écoute, on a mis beaucoup d'argent. Alors, si vous entendez les gens dire, on met pas assez d'argent dans le transport collectif, là, ben, ils n'ont pas regardé les choses.
Mobilité durable, ça peut être encore là, encore des programmes verts, puis qu'on donne de l'argent pour des subventions, pour justement, là, des éco-programmes, là. Ça se peut, là.
En tout cas, je suis curieux de voir, mais j'ai été surpris en cas du chiffre, là, c'est quasiment 20% d'augmentation. Alors, tu sais, puis il y a un gros lobby, tu sais, maintenant, c'est sûr que le transport collectif, c'est important, ouais, mais il y a un gros lobby là-dessus, mais disons qu'ils ont été avantagés au détriment de d'autres missions du gouvernement dans les dernières années.
Là-dessus. Oui, puis tu sais, malheureusement, ça nous coûte beaucoup plus cher en impôts, puis on n'a pas plus de services. Là. En santé, c'est extrêmement difficile. Un article encore ce matin concernant les urgences, tu as 17 heures d'attente parce que tu n'es pas capable de voir un médecin pour une coupure, par exemple, puis il faut que tu sois 16 ou 17 heures en salle d'attente. C'est inconcevable, mais on paye plus cher et on n'a pas le service.
Ben non, puis tout le monde sait qu'il y a eu affaire à l'urgence récemment. Tu t'en vas là, puis tu dis, écoute, amène-toi un livre. Là,
un lunch aussi.
La dialyseuse. Pis... Ouais, peut-être un lunch aussi, parce que des fois, des fois, la cafétéria est fermée. Moi, j'ai arrêté de passer 8-9 heures sur une petite chaise raide. Là. Puis, tu n'es pas sûr d'avoir. Mais tu finis par être vu. Là. Mais tu sais, l'urgence, c'est vraiment la partie faible. Je pense que les gens n'ont pas d'autres portes d'entrée. Là, alors, ben, ils s'en vont là. T'sais.
Autre chose dont tu voulais parler, c'est la situation dans Saint-Roch. Entre autres, Stéphane Lachance qui va faire un point de presse, convoquer les médias vers 10h30 ce matin, parce que il y a eu des refoulements d'égouts, puis on a un problème.
Oui, je vais en parler, mais avant ça, je veux juste conclure sur le transport en commun. Tu sais, il y a une nouvelle dans la presse ce matin que je trouve intéressante. Le REM à Montréal, ils l'ont bâti en disant on va densifier, puis on va monter des taux.
Ça marche pas comme ils voulaient, hein?
Là, la presse nous annonce ce matin qu'il y avait à Panama, là, ça arrive sur la Brossard, ils devaient monter une tour de 30 étages, financée en partie par la Caisse de dépôt. Et là, la Caisse de dépôt s'est retirée.
C'est donc.
Parce qu'ils disent, le marché a changé, il y a moins de monde à Montréal, à cause de la baisse de l'immigration, puis c'est moins rentable, ça coûte trop cher à construire. Alors, on nous vend ces transports-là, comme le tramway Québec, en disant, on va densifier, on va augmenter des taux, puis ça va donc être rentable, puis le monde doit être
bien. Ça va créer de la job.
Puis là, tu as un exemple à Montréal où il y a quelque chose de construit qui s'appelle le REM, qui est en marche, et qui pourtant, là, les gens disent, on y va pas, là, les financiers disent, on y va pas, c'est pas rentable. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Ouais. Là, on essaie de nous faire croire, comme à Québec, dans l'exemple du tramway, là, que là, on va tellement densifier la ville de Québec. Puis il y avait un texte aussi intéressant hier dans Le Devoir où il y a des urbanistes qui commencent à dire, écoutez, on a donné le pouvoir aux villes de construire vite en enlevant les référendums obligatoires. Et là, on se rend compte que c'est en train de, dans certaines municipalités, en train de détruire le tissu urbain puis de monter des tours. Et là, les réseaux publics d'égouts et d'aqueducs ne suffisent plus.
Ah. C'est ça, là.
C'est bien beau monter des tours, mais est-ce que toi...
Comme à Lévis.
À Lévis. Tu
sais, puis pour ça, je fais le lien avec...
dans l'histoire de Saint-Roch.
Alors, tu sais, écoute, ça, je trouve ça intéressant. C'est du local, là, mais c'est intéressant. Là, il y a eu beaucoup de déversements au cours des dernières semaines. Là. Entre autres, je pense, le 3 juillet dernier. Il y a eu un gros coup d'eau dans Saint-Roch et il y a eu beaucoup de débordements. Alors, dans les rues Christophe Colomb, Arago, etc., là, Marie-Louise, là, dans le pied de la Pente Douce, là. Alors, il disait qu'il y a eu 46 débordements d'égouts dans ce secteur-là au début du mois de juillet.
Ah, c'est beaucoup?
Et depuis 2023, il y a eu 600 débordements. Alors, les gens là-bas, il y a eu des témoignages disant, écoutez, là, c'est la répétition. Là, dès qu'il y a un gros coup d'eau, là, on devient nerveux parce que là, nos sous-sols sont inondés ou la rue est inondée.
Les infrastructures.
Alors, tu sais, moi, je m'interroge. Comment ça se fait que la Ville de Québec, qui dépense des centaines de millions pour creuser le tramway puis faire des trous partout, là, n'a pas
réglé ce problème-là?
Puis, tu sais, je vous rappelle que la Ville de Québec, elle a une réserve climatique, là.
Oui.
Ils ont fait une réserve climatique pour... Parce qu'ils disent, la Ville de Québec se défend en disant c'est à cause des changements climatiques. Mais il y a des citoyens qui disent, non, ça fait des années que c'est comme ça, puis ça n'a pas rempiré. Et chaque mois d'août ou mois de juillet,
on a ces problèmes-là.
Les changements climatiques ont le dos large. Puis si on a une réserve climatique, bien, mettons cet argent-là pour refaire tous les tuyaux de Saint-Roch, là, parce que ça n'a pas de bon sens que les gens vivent dans cette crainte-là.
Ça ne sert pas juste à faire des patinoires.
Hein? Ben, moi, c'est ce que j'avais compris, que la réserve climatique servait justement à... trouver des solutions parce que quand il arrive des changements climatiques, ça nous prend des solutions pour des infrastructures ou autre chose. Je pensais que c'était pour ça.
Ben oui, moi aussi. Alors, soyez cohérents. Là, si vous avez bâti une réserve climatique, utilisez-la pour rendre service au monde. Qui arrête de vivre des coups d'eau. Là. Les gens sont nerveux, là, se demandent, va-tu pleuvoir, va-tu avoir un orage, est-ce qu'on va être inondé? Ça n'a pas de sens. C'est. Et je pense qu'il faudrait que la Ville de Québec, je pense que le respect citoyen fait une conférence de presse.
Oui, tout à fait.
Je pense qu'ils ont raison, c'est un bon sujet et ça touche directement les services à la population.
Bien, quand tu habites dans le secteur et que tu es toujours...
ceux qui vivent.
Bien, exactement, là, parce que tu as un refoulement d'égout, pas le fun. As-tu...
Un petit dessert, oui, bien sûr. Bien, tantôt, vous parliez de Radio-Canada. J'ai eu une nouvelle la semaine passée, moi, qui m'a un peu étonné. Là. Radio-Canada a annoncé la semaine dernière l'ouverture de 5 nouveaux postes à l'étranger.
Oui.
5 postes de journalistes à l'étranger.
Oui.
Alors, si on compare ça au secteur privé, je pense à TVA, à CTV, à Novo, là. Alors, les réseaux privés, là, ils sont en train de couper partout. Là. Oui. Ils coupent en région, ils coupent des postes, etc. Ils ont de la misère à survivre. Là. Et moi, je trouve ça malheureux comme journaliste. Puis moi, comme journaliste, je suis content qu'on ouvre des postes. Mais ceci dit, il faut que je regarde la démesure ou la différence de ressources entre le privé et le public. Alors, ils ont ouvert 5 postes, un, entre autres, à Paris, un, à Mexico, un, à Los Angeles. Puis
toutes des belles places.
Hein. Un en Afrique qui t'a déterminé. Alors,
Jérusalem, la Chine.
Oui, Jérusalem.
Pékin.
Tu sais, mais je me dis à Los Angeles.
Mais ça, c'est pas ça.
Los Angeles, oui, ça.
On n'a pas besoin de ça, là. Bien, il y a les Jeux olympiques qui s'en viennent, quoi, que, bon, là, ça peut être intéressant.
Mais là, t'as l'équipe olympique, tout court, qui sont en recrutement pour les prochaines années.
Là-bas.
C'est déjà en branle.
Puis, tu sais, souvent, les réseaux privés, ce qu'ils font, c'est quand il arrive un malheur ou quelque chose, ils envoient une équipe. Tu sais, t'as pas nécessairement un poste, un journaliste en poste en permanence, parce qu'un poste à l'étranger, ça coûte cher.
Ça coûte très cher.
Je serais curieux de savoir comment chaque poste coûte, là, tu sais. Parce que là, tu sais, t'as le salaire, t'as le logement, t'as la nourriture, l'équipe technique, la transmission. Tu sais, c'est extrêmement dispendieux.
C'est ça, surtout... mais il y a des bureaux, tu sais, c'est un journaliste qui est tout seul chez eux, tout dépendamment de l'endroit qui est. Mais à Pékin, on peut présumer que ça va être 2, 3, 4 personnes. Tu sais, j'ai fait des recherches là-dessus, puis il disait qu'un bureau moyen avec 2 employés, c'était pas loin de 200 000 que ça coûtait, juste à ouvrir.
Oui, ça m'étonne pas, là.
Puis maintenant, beaucoup de reporters sont capables de faire... Des directs avec leur téléphone cellulaire. Je comprends pas qu'on ouvre des bureaux quand pourtant tu peux le faire avec la technologie aujourd'hui. Tu es capable de faire beaucoup de choses.
Maintenant, exact. Propose des fonds d'écran aussi. Tu peux mettre en arrière là, la ville de Pékin, puis ça fait. Là,
c'est ça. Le bureau, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va avoir un endroit physique. Ça va peut-être être chez quelqu'un, chez le journaliste. Reste à voir. On n'a pas de détails là-dessus. C'est ce qui est étrange.
Alors, comme tu dis, il y a peu de détails. Moi, j'aurais été curieux de savoir le budget, mais moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est la démesure, la différence de moyens entre le privé et le public. C'est comme si le public vivait dans un monde à part, puis regarde, on va ouvrir des postes, c'est pas grave. T'sais. Puis ceci dit, comme journaliste, je suis content qu'on ait des gens. Là.
Ouais.
Mais tu sais, je regarde même les réseaux américains, etc. Souvent, ce qu'ils font, ils vont envoyer une équipe, ils arrivent, un volcan, un tremblement de terre, peu importe, ils vont se déplacer, une guerre, peu importe. Là.
C'est ça.
Ils vont se déplacer, puis ils vont mettre quelqu'un sur place, parce que là, tu as du direct. Parce que ça ne veut pas dire que la personne que tu nommes est là quand il arrive quelque chose.
Mais non, c'est ça.
Ça peut arriver qu'il passe en vacances. Alors, tu sais, je trouve que c'est une méthode qui date de plusieurs années, qui n'a pas été ajustée. T'sais. C'est comme de dire, on a des budgets, on va être dépensés.
C'est ce que j'allais dire. Ça fait partie. Ah, le budget est là, on va le prendre parce que sinon, on va le perdre.
C'est les enveloppes, on le sait, c'est dans du ciment, ça. On n'est jamais capable de les déplacer. Il y a une enveloppe qui est consacrée à ça, puis essaie pas de tirer dessus, ça marche pas.
Ah, c'est ça. Puis on veut récupérer le même budget après, puis si tu le dépenses pas, on le sait ce que ça donne. Hein. Fait que ça complète, Donald.
Oui, je pense que oui.
Merci
beaucoup d'être venu nous parler ce matin.
Ça fait grand plaisir.
Courte pause, vous êtes dans Morais Live, 7h55, on revient.
Donald Charest.
Morais. Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.